Miaou, 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 miaou.
Le bar à...
Miaou.
Le bar à quoi?
Le bar à chat.
Le talk chat de Radio Saint-Afrique.
C'est tout à fait chat.
Miaou.
Le bar à... Le bar à... Le bar à chat.
Le bar à chat. Nouvelle émission féline de Radio Saint-Afrique.
Miaou.
Tcha tcha tcha.
Qu'est-ce
qu'on dit? Le bar à chat. L'émission chat... Heureuse
de Radio Saint-Afrique.
Et bonjour à toutes, bonjour à tous en cette première émission de l'année 2017 et donc bonne
bonjour,
année.
Bonjour, bonne année à tous.
À tous
bonne
nos auditeurs, bonne année. Auditrices, on espère que
grosse
vous avez passé...
Grosse pâtée pour les chattes pour cette année.
Exactement. On espère que l'année débarre bien pour vous. Nous, ça démarre un peu sur les chapeaux de roue. On est toujours un peu sur le fil du rasoir au moment de préparer cette émission. On va essayer de s'améliorer au fil de l'année.
Bah, peut-être que c'est aussi notre marque de fabrique d'être
peut-être
sur le fil du
rasoir. Peut-être aussi, ouais. J'ai une petite pensée émue pour la nuit du live.
Oui, oui.
On n'avait pas eu le temps d'y revenir.
C'est bien dommage.
Bon, voilà, il faut savoir qu'on s'est lâché, ça a dû s'entendre. On espère que...
Il paraît que l'antenne a sauté à cause de nous.
C'est vrai, c'est ça. Il y avait un chat sur la ligne.
On fait des gros bisous aussi à Chamanta.
On fait des bisous à Chamanta, puisque nous sommes trois. On pense à toi, Chamanta.
Ouais, tout plein de bisous.
Voilà. Et puis, on va rentrer directement dans nos sujets respectifs. Mm-hmm. Alors, petit tour de table, comme d'habitude, en commençant par Mémey. Alors, Mémey, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
Eh bien, moi, je vais vous parler d'une femme chanteuse, totalement habitée par son art. C'est pour elle un moyen de vivre une réconciliation dans un pays divisé et dans la violence. Divisée par la situation faite aux femmes et divisée dans les aspirations à une vie de paix. Je veux parler d'Ouria Aïchi, algérienne, Chaouia, c'est-à-dire Kabyle, originaire des Aurès. D'ailleurs, c'est elle-même qui va parler de sa vie d'artiste, grâce à un recueil de sons que j'ai pu réaliser lors d'un festival des Suds à Arles, il y a quelques années. Les enregistrements que vous allez entendre ont tous été réalisés en public. Ce n'est donc pas la qualité studio, mais j'espère que ça vous intéressera suffisamment pour que vous persévériez dans l'écoute. Tout d'abord, Ouria nous parle de son attachement aux chants traditionnels. Elle nous parle de ces chants que les femmes se transmettent de génération en génération.
Moi, je suis une femme traditionnelle moderne parce que je ne travaille uniquement sur le répertoire traditionnel. C'est-à-dire que je vais collecter sur le terrain, chez les gens, je leur demande de me chanter des chants séculaires qui ont été chantés depuis des générations et des générations sur lesquels je travaille. Donc je n'écris pas, je n'invente pas, j'interprète. Oui, je suis une interprète des chants de mes ancêtres. Le chant qui a toujours été présent dans ma vie, mais depuis toujours, même de manière atavique, j'ai entendu chanter quand ma mère était dans le ventre de sa mère. Voilà. Donc c'est quelque chose qui vient de très 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 loin. Et quand j'étais petite fille, donc j'entendais ma grand-mère chanter, ma mère, mes tantes, mes voisines, etc. Donc je suis née dans cette tradition du chant. J'ai grandi dans cette tradition du chant et j'ai moi-même chanté dans l'Aurès. Et je crois que si je n'étais pas devenue une femme moderne, j'aurais été une chanteuse itinérante comme ma grand-mère. C'est une tradition séculaire dans une région d'Algérie qui s'appelle l'Aurès. Et la forme dont parle Abaji est pratiquement... une des expressions majeures de la musique aurécienne dans les hautes montagnes de l'Aurès. Et voilà, et c'est comme ça que l'on chante dans cette région probablement depuis des siècles et des siècles. Et les femmes, je vais dire chanteuses professionnelles, mais c'est une notion qui n'existe pas réellement dans ce pays de l'Aurès, mais il y avait une catégorie de chanteuses qu'on appelait l'Azriyat, qui avait donc pour tâche d'être à la fois musicienne, détentrice de répertoire, dépositaire de répertoire, et qui à cause de ce statut particulier, souvent, elles étaient ou célibataires ou divorcées. En tout cas, elles étaient libérées du joug masculin. Et elles devenaient donc chanteuses itinérantes. C'est-à-dire que c'était les seules femmes qui avaient la permission de la société de se déplacer, d'être une artiste itinérante et de se faire accompagner par des hommes. Parce que les autres, celles qui n'étaient pas azriyettes, chantaient dans les maisons avec des femmes. Et voilà, j'ai repris cette tradition parce qu'elle m'avait marquée. Et à Paris, j'ai trouvé que cette forme pouvait permettre de montrer au public occidental des traditions de cette région de l'Aurès.
Dans une Algérie déchirée, Ouria s'est interrogée sur le sens du sacré pour les Algériens. Elle s'est donc penchée sur la musique sacrée de son pays.
J'ai également, à un moment particulier de ma vie, de la vie de mon pays, travaillé sur le répertoire sacré. À un moment donné, ça devenait vital pour moi. J'en faisais une question de... Comment dire, mon pays était dans un état terrible, terrifiant, tragique. Et j'ai eu vraiment en moi-même un besoin fondamental d'aller revisiter le répertoire sacré. Et je me suis dit, mais enfin, attendez, mais que disent les Algériens sur la foi? Que disent les Algériens sur la dévotion? Comment ils l'ont traduite, qu'est-ce qu'ils en disent et comment ils la parlent. Et je suis donc allée chercher, collecter dans le répertoire traditionnel sacré et j'en ai fait un disque, un spectacle qui a vécu sa vie. Je n'ai pas mené une réflexion politique, idéologique, etc. Ça ne m'intéresse pas, je suis une artiste et c'est sur ce terrain-là que j'agis et je travaille. Et en fait, dans la réalité, dans ma réalité concrète, je parle les deux langues, je chante dans les deux langues, donc je les vis, toutes les deux. Et quand j'ai travaillé sur ce répertoire sacré, donc de manière tout à fait simple et naturelle, j'ai chanté dans les deux langues. en effet, on peut aussi entendre cette option. Mais en même temps, c'est un souhait que mon pays et mon peuple se réconcilient avec son histoire, avec ses douleurs, avec ses traumatismes, et que l'on puisse enfin vivre en paix. Ça, c'est sûr.
Ouria Ishi nous parle aussi des influences multiples qui ont traversé sa terre, l'Algérie, et dont elle se sent l'héritière. Ça a donné un récital, les Cavaliers des Aurès.
Que j'étais berbère, que j'étais algérienne, que je parlais l'arabe, que je parlais le français, que je venais d'Afrique, je suis une africaine. Et que derrière moi, j'ai la civilisation punique, j'ai la civilisation carthaginoise, j'ai la civilisation turque, j'ai la civilisation arabe, j'ai tout ça derrière moi. Romaine, évidemment, voilà. Il y a tout ça qui font mon histoire, à la fois de l'histoire de l'Algérie, mais aussi de mon histoire propre. Et donc, quand j'ai pensé à ces cavaliers de l'Aurès, je les voyais porteurs de tout cela à la fois.
بالقبلة حتى لولا من جاك يا أما ويا طفلة مبهاك الله يرحم بابك من هو واللي رباك ويا يلعب يلعب ويا ويا حبابي مدلوم وش عليا سوال بدني قضية لا الله البنية شريلك صندوق مليان بالريحة يا وعطر عطرة ويا راعي الملجوم يا وقيب القبلة حتى لولا من جاك يا أما Thank you.
bien, merci Mémey pour ces belles musiques et merci. Ce reportage. Donc, est-ce que tu veux rajouter
voilà, j'ai eu l'occasion donc de croiser Uriya Ishii au Festival des Suds à Arles. Et dans ce festival, il y a une tradition, c'est que les artistes qui se produisent, ils participent à ce qu'on appelle un salon de musique, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu sur le grill. Ils ont quelqu'un qui les interroge sur leur vie, sur leur passion, sur leur métier, sur leur musique. Et donc, c'est vrai qu'Uriya, qui a fait une carrière de sociologue, elle a été prof d'université, et en fait, elle se sentait la mission de porter la tradition chaouïa et de la faire connaître, et aussi, ce sentiment, comme elle le dit, par la musique, d'essayer de rapprocher les différents peuples d'Algérie et d'apaiser. Et c'est vraiment ce qu'elle ressent, quoi. Voilà.
Ah, c'est intéressant. Hein.
C'était plaisant, ouais, tout à fait. Bon, alors du coup, voilà, Mémey, pleine d'entrain, a démarré tout à l'heure sur les chapeaux de roue. On était parti pour le tour de table, mais elle était tellement pressée, c'était la reprise. Donc, comme voilà, nous, on se laisse.
Désolée.
Ah, mais non, mais c'est pas grave. C'est chouette.
Un enthousiasme.
Voilà. Donc, bien, désormais, nous allons passer à Félice Potin, qui va, elle aussi, aborder un thème. Alors, justement, pour finir un petit peu, vous allez voir au fil de l'émission que cette première du mois de janvier est vraiment consacrée aux femmes. On était parti sur une thématique, puis finalement, de fil en aiguille, chacune a creusé un peu dans son coin. Donc, bon, ça reste globalement sur la femme, la place
dans
des femmes.
Dans les arts.
Voilà,
hein.
Dans les arts. Donc, Félice Potin, c'est à toi.
Eh bien, merci beaucoup. Et moi, je vais vous parler des femmes peintres. Il y a des artistes peintres femmes dans le passé comme aujourd'hui, c'est vrai, mais moi j'en connais peu. Je connais par contre bien la mexicaine et célébrissime Frida Kahlo aux représentations naïves, oniriques et symboliques, dont le destin fut tout à fait extraordinaire. J'aime aussi beaucoup Séraphine Louis, dite de Senlis, domestique française totalement autodidacte, qui peignit des bouquets mystérieux. Rosalba Carriera, elle, peintre vénitienne du XVIIIe siècle, paraît-il, influença l'art pictural lors de son passage en France, car elle peignait au pastel, et c'était la première. Tamara Lempicka, peintre polonaise, représentative du mouvement Art déco, etc. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une peintre contemporaine belge que j'ai découverte au cours d'une de mes nuits blanches, grâce à un documentaire sur la 5 de Serge Moati, qui s'intéresse à une énigme. Donc, l'émission s'appelle « Mes questions sur » et le thème cette fois était « Le désir féminin ».
Que c'est bon d'être demoiselle, car le soir dans mon petit lit, quand l'étoile quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer l'écrevisse, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le montvelu. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais mamourer le bibelot, je me fais sabrer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement.
Alors, Les Nuits d'une Demoiselle de Colette Renard. Oui, ici, on l'aime beaucoup, cette chanson, avec un tel panel. Il faudrait un jour qu'on se fasse un petit dictionnaire entre nous.
Effectivement.
Donc, en fait, je vais vous parler ce soir d'Elisa Brune. Alors, Elisa Brune est docteure en sciences de l'environnement, est femme de lettres belge, journaliste scientifique et artiste peintre, sous le pseudo d'Elisa Els. Elle a écrit des tas de livres. Voici quelques titres. Fissure, Relation d'incertitude, Un homme est une rose, Séisme et volcan, Qu'est-ce qui fait palpiter la terre, Alors heureuse croit-il, La vie sexuelle des femmes normales, Le secret des femmes, Voyage au cœur du plaisir et de la jouissance, La révolution du plaisir féminin, Sexualité, orgasme, pensée magique, Le salon des confidences, Le désir des femmes et le corps de l'homme, et le petit dernier de 2016, Labo Sexo, bonne nouvelle du plaisir féminin chez Odile Jacob. Donc là, on a avec tous ces titres un bon aperçu de ce qui l'interroge.
We are unstoppable.
Voilà, donc en fait, cette femme, Elisa, donc elle est écrivaine, donc ce que je disais tout à l'heure, elle est écrivaine, elle est aussi artiste peintre, et donc elle étudie l'histoire des femmes. Mm-hmm. Donc voilà, donc elle peint et elle écrit sur le même sujet. Donc là, on retourne chez elle, elle est entourée de ses tableaux représentant exclusivement des sexes d'hommes. L'artiste émancipé explique avec beaucoup de douceur qu'un sexe d'homme au repos est touchant, tendre et délicat. D'après elle, les hommes sont encombrés par une question de virilité et de puissance et même sont gênés de se montrer au repos. Mais Elisa Brune, rassurante, affirme qu'il n'y a rien de plus agréable. Dans sa recherche d'artiste, ce qui intéresse Elisa est que les hommes n'ont pas l'habitude de se voir ainsi dans ce genre de tableau et surtout que les femmes n'ont pas l'habitude de parler du corps des hommes de cette façon. En quelques coups de crayon et aquarelle subtiles dans un style épuré, les parties charnelles se languissent sur les toiles tandis qu'elle explique aux journalistes que le nu masculin est à part. Soit il est académique et fait partie du trajet d'apprentissage, pardon, soit il s'adresse à un public spécifique au goût iconographique particulier, et il s'agit bien là d'un regard d'homme sur les hommes.
J'ai crevé l'oreille, j'ai dû rêver trop fort. Ça prend des jours fériés quand Gisèle clappe dehors. J'aurais pas dû ouvrir à la roquette carmélique. La mer sur ma vue venir, Dieu avait mis un culte. Y'a dû y avoir des fuites au vertige de l'amour. Circuits sont niqués, puis y'a un truc qui fait masse. Cours, on peut plus passer. Non mais t'as vu ce qui passe, je veux le feuilleton à la place. Oh merci, je te l'amour. J'ai pu suer un saïdo. J'écris des cartes postales du front. Si ça continue, je vais me découper. Suivant les points qui est le de l'amour. Désire-vous que rien ne cesse. Cœur transi reste sourd au cri du marchand en place. Non mais t'as vu ce qui passe. Je le veuille d'en voir la place. Oh merde, je te l'amour. On légionnaire à ton contient. Et la tranchée vient d'être peinte. Écoute, si ça continue, je vais découper. Suivant les points qui viennent. Je te l'amour. Rêver trop fort. Ça me prend des jours fériés quand Gisèle clappe dehors. J'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort.
Voilà, un petit vertige de l'amour avec Bachung. Et nous retournons avec Elisa, qui nous propose un regard de femme sur le corps masculin. Elle s'attache à leur perception, car d'après elle, les femmes sont rares à assumer leurs désirs ou leur curiosité, parce que c'est tout simplement mal vu dans notre société. Une femme qui va vers l'homme, qui parle de son désir, est immédiatement soumise à la réprobation générale. Ceci engendre une censure bien verrouillée chez de nombreuses femmes. Il faudra plusieurs générations pour qu'un tel conditionnement disparaisse.
Thank you. weather girl.
Uh-huh.
And have we got news for you.
You better listen.
Get ready, all your lonely girls, and leave those umbrellas at home.
All right.
It's rising.
Mm. Rising.
Mom is getting low.
How low, girl?
According to all sources.
What sources now?
The street's the place to
we better
go.
Hurry up.
Et voilà un petit clin d'œil à ma petite fifille, qui est maintenant une grande jeune femme. Et avec elle, nous écoutions It's Raining Men dans notre salon, en dansant comme des folles quand elle était ado, c'était super. Voilà, alors dans beaucoup de couples, la femme ne peut pas dire « Voilà de quoi j'ai envie ». Nous avons une libido très particulière en comparaison à celle des hommes. Nous pouvons nous arrêter, recommencer, tandis que les hommes, une fois l'orgasme atteint, sont soumis à un temps de repos. Question de physiologie, il n'y a pas à chercher plus loin. Notre temporalité, du coup, dans le rapport, n'est pas du tout la même et surtout n'a pas été suffisamment exposée. Je vois Mémé qui sourit, j'aimerais bien savoir pourquoi.
Où mène l'art?
Les femmes, dit Elisa Brune, ont calqué leur sexualité sur celle des hommes par convenance. Elle a accueilli de nombreux témoignages de femmes qui ont une libido consciente et active, que leur compagnon ignore totalement, parce que le couple est piégé dans un script. Alors ces femmes explorent leur sexualité seules ou vont voir ailleurs. Elisa dit « Ce compagnon vit potentiellement avec une banque sexuelle, mais il ne la connaît pas ». C'est un problème pour beaucoup de femmes. Cela ouvre un conflit entre leur cœur et leur corps. Donc, il nous reste à explorer la piste d'une véritable libération sexuelle des femmes qui ne s'exprime pas forcément dans le regard de l'autre, mais bien dans la possibilité de parler simplement et en toute confiance de notre désir. Voilà. Si vous avez des questions à me poser, c'est avec plaisir.
C'est instructif, intéressant, oui. Bon, des choses qu'on se dit...
Mais je vous encourage à aller voir ses toiles sur Internet, parce que c'est intéressant son travail. Hein.
Et ses bouquins aussi.
Ouais.
Ont l'air
ouais.
Sympa. On va demander s'ils les ont à la bibliothèque de Sainte-Afrique.
Okay.
Ou on les fera commander.
Bon alors pour finir, je vais vous passer un extrait du film de Vadim et Dieu créa la femme. Forcément, on ne pouvait pas attaquer ce sujet sans parler de ce film qui est une pièce d'anthologie. Alors dans cette histoire, Brigitte Bardot est une jeune femme qui découvre le plaisir, l'amour, le sexe et surtout le désir. Son désir la submerge et dans son monde plus que étriqué par les convenances, les hommes qu'elle rencontre exploitent chacun leur désir propre. Mais son mari, Jean-Louis Trintignant, l'aime avec ses codes à lui. Donc, quand elle lui échappe et va danser le mambo avec des musicos dans un bar, ben, les différents archétypes masculins s'affrontent. D'ailleurs, un des hommes que la sexualité d'Héroline dépasse dira d'elle « Cette femme est faite pour perdre les hommes ». Tu vois, c'est quand même vachement intéressant. C'est qu'une femme qui exprime sa sexualité ou son désir, tout de suite, elle est là pour perdre les hommes.
Un peu pécheresse, quoi.
Ben voilà.
C'est effrayant.
Absolument. Pour finir... Sa soif de dire son désir se termine, pour elle, par quatre grosses baffes qu'elle se prend dans la tronche par son mari. Et du coup, eh ben c'est un happy end. Heureusement qu'aujourd'hui, on a des psys.
Qu'est-ce qui t'arrive?
Vous voyez pas que je m'amuse?
Alors viens, ça suffit.
Vous connaissez un pays où les gens ne pensent qu'à danser et à rire?
Je vais t'y amener.
C'est loin.
De l'autre côté de la terre.
Je voudrais ne plus penser à rien.
C'est pour ça que je suis ici, Juliette.
C'est dommage. On n'a pas bien entendu les baffes.
Merci Félix pour,
ben
pour ce billet. Donc un peu de la réaction
studio. Ben oui, moi je me posais la question de savoir l'origine de cette répression de l'expression par les femmes du désir. Qui est donc qui est culturel, hein, c'est quelque chose qui est appris. Et alors pourquoi est-ce que les femmes ne peuvent pas exprimer librement leurs désirs? Je me demande si c'est parce que si ce n'est pas parce que les hommes, souvent ils ont peur déjà de ne pas pouvoir assurer. Alors si en plus ils ont une femme explosive en face, alors ça va plus là, ça va plus.
Ouais, c'est, je crois que c'est une question qui...
Qui reste à approfondir. Je pense pas que ce soit aussi simpliste, mais effectivement, la sexualité fait peur. La sexualité de l'autre fait peur. En fait, c'est pas la sexualité qui fait peur, c'est le désir de l'autre qui fait peur. Et d'oser dire, moi j'ai envie de ça, ou moi j'ai envie de ça, c'est pas facile. Et effectivement, c'est culturel. Je pense qu'effectivement, on pourrait se approfondir ce sujet.
On pourrait faire une émission là-dessus.
Oui.
D'ailleurs, avec peut-être un matou, puisque cette année, en 2017, oui, on lancera enfin le bar à chatte avec le matou du mois.
Les spéciales matou. On va en trouver.
J'en ai déjà trouvé quelques-uns.
Le matou du mois.
Tout à fait. Ça pourrait être un des thèmes à bord, effectivement. Et d'avoir aussi le point de vue d'un homme sur tous ces sujets.
Bien sûr, absolument.
Qui nous questionne.
Oui. Absolument.
Très bien, alors, petit intermède musical, j'allais dire, mais de nouveau, c'est vrai qu'on en a pris plein les oreilles ce soir, mais ça fait du bien d'avoir de la musique, là. Ça réchauffe aussi, parce que dans le studio, il fait pas très chaud ce soir.
Pas chaud.
Donc, un petit intermède avant de passer au dernier billet de cette émission, avec une autre super nana qui dépote également, brésilienne, de son petit nom, Flavia Coelho.
Saudade, um vazio, vazio. Drama, raiva, choro, medo do futuro. Fiquei horas te esperando no frio, no frio. Pra manter as aparências, sorrio, sorrio. Cuba livre, short, som, faz din-din.
Petite Flavia, que j'aime
c'est
beaucoup,
sympa,
qui
ouais.
est passée l'été dernier, je pense, à Mio dans le cadre des Natural Games. C'était super sympa. C'est une toute petite bonne femme, mais c'est une pile électrique sur scène et c'est génial. Ça vaut le coup vraiment d'aller la voir si elle repasse dans le coin. N'hésitez pas. Et bien, donc, c'est le tour de Chaussettes, c'est-à-dire moi-même, de conclure cette émission. Alors, comme je le disais au début, on était parti pour cette thématique de la première émission de janvier sur les femmes dans l'art. Dans les arts. Et donc, je voulais m'occuper des femmes dans la littérature. Je vous avoue, hein, j'ai fait ça un petit peu à la dernière minute, comme bien souvent, donc c'est assez condensé. Mais en même temps, c'est un constat, quand j'ai commencé à chercher, j'ai eu du mal à trouver pas mal d'infos, puisqu'en fait, effectivement, les femmes dans la littérature, il faut quand même pas mal les chercher, hein, que ce soit à la librairie, à la bibliothèque. Les rayons, en général, ils sont fournis, mais les écrivaines... Voilà, on ne les trouve pas du premier coup d'œil. Donc j'avoue, hein, moi-même, mes auteurs de prédilection, je m'en suis rendu compte, ils sont essentiellement masculins. Barjavel, Philippe Cadic, Granger, Orwell, il y en a toute une flopée. J'en ai quelques-unes qui sont féminines, dont d'ailleurs Lucie Père, petit clin d'œil à Lucie qui fait une émission
Coucou,
ici.
Lucille.
Je suis totalement fan de ses romans. Mais là, tout de suite, pensez à une écrivaine célèbre, quel nom vous vient?
Moi, celle qui a écrit, le monstre là.
Voilà, Marie Shelley.
Voilà, Marie Shelley.
Je pense à elle.
Moi, c'est Simone de Beauvoir, je m'excuse. C'est...
Oui, j'avoue.
Non, mais sérieux.
Il y en a quelques-unes, mais c'est vrai que si on faisait le tour autour de nous, c'est souvent les mêmes noms qui reviendraient. Hein. George Sand, supposé sulfureux, mais qui avait du coup un pseudonyme emprunté à un homme.
Si, je dirais Fatée Dioumé. C'est elle qui a écrit. Non, oui, c'est Fatée. Qui a écrit Le ventre de. Non, attends. Je suis en train de
Ouais. Elle va chercher. C'est dire s'il n'y en a pas beaucoup.
Non, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Et alors, je me suis rendu compte, en faisant mes petites recherches, justement, sur Internet, je me suis dit, bon, bah, pour trouver la présence des femmes, allons voir un petit peu au niveau des prix littéraires. Donc, le fameux prix Goncourt, le plus connu en France, je me suis focalisée surtout sur la littérature française. Je vous ai dit que j'avais peu de temps pour préparer ce papier.
C'est Georges Fenard, elle n'a pas eu le Goncourt ?
Ah, peut-être, je ne sais pas, je ne les ai pas toutes faites, c'est possible. Donc le prix Goncourt, il existe depuis 1903, donc ça fait un petit moment quand même. Et en 2016, ce prix affiche au compteur 12 lauréates seulement. 12 femmes primées sur 113 années d'existence. Donc déjà, c'est pas mal. Hein. Du coup, en allant chercher des infos sur ce fameux prix Goncourt, j'ai appris que le prix Fémina fut créé l'année juste après, moi je pensais que c'était beaucoup plus vieux, en 1904, par 22 collaboratrices d'un magazine, La Vie Heureuse, en réaction justement à l'absence de femmes dans le jury du Goncourt. Ce prix Fémina s'est ainsi doté d'un jury exclusivement féminin, mais qui ne récompense pas que des ouvrages écrits par des femmes. Et du coup, ce prix Fémina affiche quand même un meilleur ratio, puisqu'on compte 40 femmes lauréates pour 65 hommes lauréats. Donc bon, quand même, c'est pas mal quoi. Et au total, sur 663 prix littéraires décernés depuis le début du XXe siècle, 16% ont été attribués à des écrivaines, soit 106 femmes lauréates. Donc on peut se dire que l'égalité est encore lointaine en littérature, comme dans bien d'autres domaines. Alors certes, le nombre de femmes auteurs éditées a toujours été inférieur à celui des hommes, d'où également leur faible part dans les prix décernés. C'est aussi ce qu'on peut se dire, il y a un biais quand même là-dedans. Mais justement, du coup, on peut se poser la question du pourquoi. Alors les études sont assez rares sur le sujet, mais voilà, pourquoi en fait? Les femmes, est-ce qu'elles écrivent moins? Ou est-ce que leur production est jugée moins digne d'intérêt, finalement? Et ce qu'il faut se dire, ce qu'on se disait tout à l'heure aussi, c'est que ces questions qu'on se pose, elles valent aussi pour d'autres domaines de notre société. Ça ne concerne pas que la littérature, quoi. La présence des femmes dans tout plein d'autres domaines artistiques ou autres, elle est souvent... leur visibilité est moindre, quoi. Donc voilà. C'est, paraît-il, heureusement, de moins en moins vrai aujourd'hui. On le dit qu'au niveau des écrivaines, ça a tendance à augmenter, ou en tout cas, leur visibilité a tendance à augmenter. Quoi.
Mais il y a un scandale sur les prix, alors Goncourt, ou peut-être les autres aussi, mais il y a un vrai scandale. Je veux dire, c'est pas non plus... Tu vois, la visibilité des femmes, elle est moindre, certes, mais est-ce que c'est juste, vu que de toute façon, c'est déjà un prix qui est vendu à l'avance, quoi.
Oui.
Donc,
oui, il y a de ça aussi, effectivement... Donc voilà.
On parle réel regard en fait.
Ouais, c'est ça. Il m'aurait fallu beaucoup plus de temps pour fouiller, pour vraiment. Mais en fait, ce constat qui m'est venu assez naturellement, je me suis dit que, enfin, ça voulait aussi. C'était assez révélateur quoi de la situation.
Oui, mais il me semble que quand même, les femmes sont de plus en plus éditées. C'est-à-dire qu'on retrouve, trouve des ouvrages, des auteurs heureux, de plus en plus quand même.
Oui, et des maisons d'édition,
de femmes. Voilà, il y a des maisons d'édition de femmes, et puis. Il me semble que quand même, elles arrivent à se faire éditer plus facilement qu'il y a quand même quelques années.
Oui, tout à fait. Ouais.
Alors les prix, bon, bah, ça c'est autre chose.
Oui, voilà.
C'est encore autre
chose. Mais disons qu'il me fallait un indicateur, justement, pour pouvoir, et je me suis dit, tiens, pour regarder...
Oui, c'est quand même un reflet exact, hein, voilà. de la façon dont les femmes sont perçues en tant qu'auteurs, par rapport aux hommes, ça c'est... C'est un bon indicateur.
Surtout que là, même si on reste sur la littérature contemporaine, j'ai regardé un petit peu dans mes recherches, si on parle de littérature plus ancienne, d'écrits, même de poèmes, de recueils, de choses comme ça, il s'avère qu'on en trouve quand même pas mal des femmes. Mais c'est vraiment à force de recherche que c'est ressorti. Et elles n'étaient pas du tout mises en avant, voire elles ont été oubliées.
Réprouvées. Voilà, c'est et ça. Réprouvées.
C'est ça. C'est la même chose dans la peinture. Hein.
Voilà, c'est ça. C'est dans plein d'autres domaines, qu'ils soient artistiques ou pas. Donc, on va continuer à revendiquer notre place dans la société.
Les matous avec nous.
Voilà.
Bon, mais c'était intéressant. Yeah, it's for always. I'm gonna love you with all of my heart. And if there is no more time, it's always. Voilà, vous avez pu écouter pour cette fin d'émission le groupe Alabama Shakes avec sa chanson I Found You. Donc, l'émission touche à son terme. C'est terminé. Déjà. C'était très bien.
Pour une première émission de janvier, ça va. On ne s'est pas trop mal débrouillé. Ouais. On arrive toujours à sauver
les
gens.
On verra les auditeurs qui vont nous écouter, on verra ce qu'ils vont nous dire. D'ailleurs, ils devraient avoir des retours. Est-ce que vous avez des retours?
Vous pouvez aussi aller sur... le site internet de la radio, il y a nos émissions en podcast, et puis nous laisser des petits commentaires, ça fait plaisir. Donc voilà. Donc cette émission sera rediffusée mardi à 11h et jeudi à 16h. Normalement, c'est ça. Mm-hmm. On va vérifier. Un grand merci également à Clément, à la technique.
Merci Clément. Clément. Tout maladou. Voilà. Tout maladou quand même. Miaou.
C'est notre Filou bis, du coup. Filou nous a lâchés.
Miaou.
Maintenant, ce sera Clément. Donc, on vous souhaite à toutes et à tous...
Encore une bonne année. Hein.
Voilà, une très bonne année. Ouais. Et puis, au mois prochain.
Au mois prochain. Bye bye.
Bye bye.
Miaou. 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 Oh, j'ai trouvé un roman.
Chalor.
Miaou. 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 Miaou.
Le bar à...
Miaou.
Le bar à quoi?
Le bar à chat.
Le talk chat de Radio Sainte-Afrique.
C'est tout à fait chat. Miaou.
Le bar à chat.
Nouvelle émission féline de Radio Centrafrique.
Cha-cha-cha.
Le bar à chat, l'émission chat heureuse
de Radio Centrafrique.